8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une vie au travail, eh bien ça n'est pas de tout repos, surtout quand on a un chef incompétent. Être dirigé par un nul, cela se répercute inévitablement sur les collaborateurs, surcharge de travail pour compenser, perte de confiance, frustration, manque de motivation, de quoi décourager aussi les ambitions. Selon une étude de 2024, 52% de la génération Z, c'est-à-dire les 15-30 ans, ne veut pas être manager. Alors si les bons éléments ne veulent pas diriger, ne restera-t-il que les médiocres? C'est une question ouverte. Comment faire revenir la compétence au sommet? Et surtout, comment parvenir à dialoguer avec sa direction, même quand elle a de grosses lacunes? Les voisins, les voisines, vous avez bien sûr la parole sur le sujet, quelle que soit votre position dans la hiérarchie de l'entreprise. Racontez-nous ce que vous vivez dans votre travail, dans vos relations aussi avec votre hiérarchie. Notre compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. N'attendez pas la fin de l'émission pour donner votre point de vue et poser vos questions. Je vous présente nos invités. Gaëlle Châtelain-Berry, bonjour.
Emmanuel.
Vous avez publié « Mon boss est nul, mais je le soigne. Comment transformer le pire patron en manager bienveillant ?» Oui, comme ça, ça semble un peu utopique, non ?
Non, c'est assez réaliste, c'est assez sur de l'expérience, donc il faut y croire.
Votre pire patron, en tout cas dans le livre, s'appelle Bob et il a effectivement tous les défauts. Vous avez été assez précurseur sur le concept de management bienveillant. Vous êtes également l'auteur d'un podcast sur le bien-être au travail. Et nous sommes aussi en liaison avec Isabelle Barthes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université de Strasbourg en sciences de gestion, chercheuse en sciences du management. Et vous avez publié en 2024 « La caquistocratie ou le pouvoir des pires ». Juste en un seul mot, qu'est-ce que la caquistocratie ?
Alors, la caquistocratie est forgée sur le deux mots grecs, kakistos, les pires, kakos, c'est les mauvais, et kratie, le pouvoir. Et donc, j'ai repris ce terme qui existe depuis des centaines d'années pour désigner des organisations, alors qui peuvent être politiques, mais en l'occurrence au travail, et qui sont dirigées par des incompétents.
Voilà,
des
kakistocratie,
nuls, comme dirait,
le pouvoir voilà. Du mal aussi. On va bien sûr y revenir. Vos questions, vos témoignages, 33 7 64 45 51-41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
Ouais, se parle ou ne se parle pas d'ailleurs. Ça dépend des entreprises. Gaëlle Châtelain-Berry, le management bienveillant est né à partir d'un constat de défaillance majeure des chefs. Alors qu'est-ce qu'un chef nul ?
Un chef nul, avant tout, c'est un chef qui n'écoute pas. Et ça, c'est toutes les études le montrent. La première demande des salariés, c'est d'être écouté par leur boss. Et souvent, on a tendance à se dire, mais ça, c'est nos habitudes. Depuis qu'on est tout petit, si le maître ou la maîtresse nous dit, tu fais ça, même si on n'est pas d'accord, on le fait. Et on garde ces habitudes-là. Et donc, il faut avoir le courage de parler à son boss. Parfois, il n'écoutera jamais, mais c'est rarissime. Et c'est tout l'objet de ce livre, c'est d'expliquer que c'est bien facile de dire qu'il est nul ou incompétent. Si jamais on ne fait que le dire avec nos copains à la machine à café, mais qu'on ne fait littéralement rien, qu'on ne lui dit pas, rien ne changera. Et j'ai croisé quelques boss nuls dans ma carrière, oui. Et on peut les faire changer.
Mais pas seulement des boss qui n'écoutaient pas, ça allait bien au-delà.
Parce déjà, l'écoute, c'est assez important.
Votre Bob, il est toxique,
oui.
Lâche, manipulateur, impoli, il ne respecte pas les horaires, il a du mépris, il a une absence de convivialité, il ne dit pas bonjour à la standardiste quand il arrive le matin, il n'est pas organisé, il prend 2 heures pour déjeuner avec ses copains.
J'ai fait une sorte de best-of. Mais je rebondis sur ce que vous dites. Vous savez, Emmanuel, que la première source de démotivation des salariés, en France en tout cas, c'est le fait que leur manager ne leur dise pas bonjour le matin. Je pense qu'on peut convenir que c'est pas extrêmement compliqué de changer ce petit détail. Et c'est pour ça que je suis plutôt très optimiste et de dire oui, on peut devenir à minima un manager correct si ce n'est un bon manager.
En France, selon une enquête IFOP, 68% des salariés estiment que leur manager n'est pas suffisamment formé pour gérer des situations de crise, des situations d'incertitude. La France est aussi dans le top 5 des pays les plus concernés par le burn-out, alors qu'on a beaucoup de jours de congé en France. On a aussi plusieurs études qui montrent qu'on est dans des structures très pyramidales, pas très horizontales, contrairement aux pays anglo-saxons. Isabelle Barthes, est-ce que la France et d'autres pays d'ailleurs qui fonctionnent un peu de la même façon, des pays francophones, est-ce que cette zone-là est si mal placée que cela pour le talent du management ?
Alors, j'ai envie de dire qu'en effet, il y a des variables culturelles indéniables et que la France n'est pas, ou d'autres zones en effet ne sont pas. Pays qui ont hérité, je dirais, des fonctionnements français ne sont pas particulièrement gâtés et qu'on sait depuis 25 ans, alors ça a été le grand symptôme de l'entreprise Ibérée, on ne veut plus d'un management, on parlait du chef, là, le petit chef autoritaire, descendant, qui vous donne des ordres, tout ça on le déteste, on l'a toujours détesté, mais on le dit maintenant. Par contre, on sait qu'on a besoin de cadres, de managers, de management et c'est là que qu'on renvoie maintenant au manager cette responsabilité immense d'avoir un travail où on se sent bien, où on est performant, parce que la performance, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, c'est le but de toutes les organisations, même si elles ne sont pas des entreprises. Et donc, on renvoie à des hommes et des femmes cette responsabilité immense que les gens aillent au travail heureux, qu'ils soient engagés, qu'ils aient envie de rester dans l'entreprise, qu'ils développent leurs talents. Et c'est quelque chose de compliqué. Et moi, je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas beaucoup de managers toxiques, comme le décrit Gaël, parce qu'il est véritablement toxique, ce Bob. Mmh. Même si dans les représentations, on l'entend beaucoup, ce que j'ai vu, moi, avec mes enquêtes depuis des années, c'est que c'est des managers défaillants. Et comme vous le dites, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas compris non plus ce qu'était être manager. On ne leur a pas posé les bonnes questions. Ils ont vu la promotion, le salaire supplémentaire, des marges de manœuvre, mais ils n'ont pas vu qu'ils devaient être au service des autres, qu'ils devaient être en effet dans l'écoute, qu'ils devaient faire grandir les talents. Et du coup, ils se trouvent piégés. Piégés entre des attentes de la gouvernance, il faut faire plus de performances, il faut que les gens soient engagés. Piégés entre les attentes des collaborateurs qui veulent quelqu'un qui, comme ça vient d'être dit, qui les reconnaît, qui les respecte, qui les fait grandir. Et ils ont, moi je vais vous dire tout simplement, ils ont peur. Mmh. Ils ont peur de dire non, ils ont peur d'être exigeants, ils ont peur de... parce qu'on ne les a pas formés.
Mais est-ce que ces managers, ces chefs, alors on ne va pas dire complètement nuls, mais défaillants, ne sont pas aussi le produit d'un système, Gaël Châtelain-Berry ? Parce que quand on voit que 39%, en France en tout cas, des salariés interrogés se sentent obligés de rester tard au bureau juste pour montrer leur engagement, sachant que depuis le Covid, on est quand même passé au télétravail, qu'on a des accords d'entreprise dans quasiment la plupart des entreprises à 2 jours de télétravail, que 48% estiment que la présence au travail compte plus que les résultats. Alors on a l'impression que le système n'a pas évolué et que le manager reste coincé entre les évolutions de société, les attentes des collaborateurs, des salariés, des hommes et des femmes, et un système qui reste à l'ancienne.
Vous avez cité un chiffre qui est incroyablement positif au tout début de l'émission, quand vous avez dit que plus de 50% des gens ne voulaient plus devenir manager. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Dans une structure...
La plus inquiétante.
Non, elle est exceptionnelle, cette nouvelle. Dans une structure, c'est entre 13 et 15% des salariés qui vont devenir des managers. Moi, je fais partie d'une génération qu'on peut appeler un vieux, un senior, plus de 50 ans. Quand j'ai fait ma grande école de commerce, il fallait devenir manager pour réussir.
Vous étiez programmé pour...
Non, mais c'était pire que ça. C'était si on ne devenait pas manager, on avait raté notre carrière. Là, je ne vais pas dévoiler tout ce qui se passe dans le studio, mais nous avons un jeune étudiant, stagiaire
qui vient d'arriver aujourd'hui.
Qui vient d'arriver. Dans son plan de carrière, pour sa réussite, il ne va pas lui être mis dans le crâne par ses profs en permanence. Tu dois devenir manager, tu dois devenir dirigeant. Et peut-être qu'il n'en a pas du tout envie. Ce qui veut dire qu'il nous faut 15 à 20% d'une classe d'âge pour devenir manager. Et ça ne sera que des gens qui en ont vraiment envie. Donc c'est une... excellente nouvelle, mais vous avez raison, le système n'a que peu évolué, il est en train de bouger doucement, mais en France, on a encore ce sacré présentéisme, toutes ces choses-là.
Alors, on ne va pas parler bien sûr que de la France, vous nous appelez où que vous soyez dans le monde au 33 7 64 45 51 41. Isabelle Barthes, vous nous avez dit, bon, la kakistocratie, en gros, c'est le pouvoir du mal, hein, c'est le pouvoir des mauvais, ce pouvoir des pires, des incompétents, qui ne s'applique pas que au monde politique, mais aussi au monde de l'entreprise. Quelles sont, en quelques mots, les conséquences de la kakistocratie sur les équipes ?
Ben, c'est beaucoup de souffrance. Parce que, en fait, après avoir grandi en général dans un système où la compétence, c'est quelque chose qui est important, on travaille pour avoir une bonne note à l'école, on va réussir parce qu'on est compétent, on découvre un dispositif, parce que ce n'est pas que mon manager direct, hein, c'est tout un système qui se met en place où l'incompétence a de la valeur. On se retrouve dans une administration où on a été recruté par concours, donc complètement à côté de la plaque d'une compétence dont on a besoin pour devenir manager. On se retrouve dans une petite entreprise où le fondateur, le patron, préfère recruter sa fille, son fils incompétent, plutôt que des gens qui sont compétents. Et là, il y a une perte de sens, il y a une perte de tout, de valeur, et qui fait qu'on se sent souvent très, très en difficulté. Mmh. Ça, c'est vraiment...
J'allais vous poser la question.
Beaucoup des personnes que j'ai rencontrées.
J'allais vous poser la question, pourquoi on nomme des chefs incompétents ? Bon, voilà, la méritocratie qui, finalement, là, est broyée par une préférence du top chef, mais aussi la culture du diplôme, de l'ancienneté, le manque de formation.
Oui. Le clanisme, oui. On va recruter le polytechnicien, la personne qui a fait la même école. Ouais. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est incompétent au sommet de la pyramide, on garde le pouvoir, on garde tout ce qui va avec et on ne se remet pas en cause. C'est ça le grand problème de ces dispositifs.
Alors, tout ce que vous citez, je peux vous dire que ça parle à nos auditeurs. Un message de Robert qui est à Bujumbura au Burundi nous dit « À cause de la corruption, beaucoup de dirigeants n'ont pas de compétences pour administrer une entreprise et les conséquences sont multiples. Les employés sont mécontents, ne sont pas motivés car sous-payés. Ils quittent l'entreprise ou travaillent avec la peur d'être licenciés. » Un message de Tora, il lui est à Brazzaville, au Congo-Brazza. Les managers incompétents ont tendance à favoriser les employés incompétents. Le manager a peur que les employés compétents prennent sa place un jour. Que faire dans cette situation ?
Vous voulez dire c'est exactement...
Gaël Châtelain-Berry. Oui.
Quand on est manager ou manager ?
Oui, quand on est manager.
Mais quand on est manager, encore une fois...
C'est-à-dire qu'on est partagé. Il faut pas être trop brillant par rapport à son manager incompétent.
Mais je pense qu'il faudrait définir qu'est-ce que ça veut dire être compétent. En France, par exemple, et dans beaucoup, beaucoup de pays, on va être nommé directeur commercial parce qu'on est le meilleur vendeur. On est donc compétent sur cette fonction commerciale. Et je suis persuadé que vos auditeurs et auditrices au Brazza, il y a également ça. Il ne faut pas tout noircir. Mais le problème, c'est que cette compétence qui va valider ma nomination ne suppose pas que j'ai la compétence la plus importante d'un manager, qui est d'être empathique avec ses équipes, d'être à l'écoute, d'être disponible. Bref, il y a deux grandes familles de compétences. Et malheureusement,
le savoir-faire technique et le savoir-faire humain. Le savoir-être humain.
Mais je ne sais pas, vous, la dernière fois que vous avez passé un entretien de recrutement, Emmanuel, mais c'est rarissime encore aujourd'hui qu'on pose la question, est-ce que vous êtes à l'écoute de vos équipes ? Est-ce que vous êtes prêt à admettre que vous avez tort, que vous ne savez pas toutes ces compétences humaines qui, fondamentalement, ont plutôt été validées ? Et Isabelle le disait, Polytechnique, toutes ces grandes écoles, on valide plus un diplôme que des compétences humaines.
Isabelle Barthes, le manager qui a peur que les employés compétents prennent sa place un jour, qu'est-ce que vous conseillez aux employés ?
C'est très complexe comme situation et on peut être un lanceur d'alerte, on peut éventuellement aller dialoguer avec la personne, mais quand le dispositif, et alors j'ai habité plusieurs années en Afrique et mon livre a démarré à partir de petites vidéos où j'ai eu vraiment énormément de lecteurs africains qui m'ont... C'est cette notion de clanisme, de loyauté aux personnes et non pas au bien commun qui pose le problème.
À la communauté, ouais. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez choisi vous qui avez choisi la chanson qu'on va écouter, Isabelle Barthes, l'artiste burkinabé Jakassa, qui chante Kakistocratie. Voilà, j'attendais que vous le disiez, c'est le titre de votre livre aussi. Kakistocratie, chez 8 milliards de voisins, on est en direct sur RFI.
Yes, où va mon pays ? Où est ma patrie ? Où va mon pays ? Où est ma patrie ? Dis-moi, où va mon pays ? Où est ma patrie ? Où va mon pays ? Trop de
Très bonne cette chanson de Jacassa. Kakistocratie chez 8 milliards de voisins. Le pouvoir des mauvais, le pouvoir des incompétents, c'est aussi le titre de votre livre, Isabelle Barthes. Vous êtes professeure à l'université de Strasbourg en sciences de gestion et vous avez publié La Kakistocratie ou Le pouvoir des pires aux éditions EMS. Gaël Châtelain-Berry, vous avez publié Mon boss est nul mais je le soigne. Comment transformer le pire patron en manager bienveillant aux éditions First. Et c'est l'objet de notre émission, essayer de trouver des solutions. Comment travailler quand on est dirigé par un nul? Peut-on s'adapter à la compétence de son chef? Les voisins, les voisines, racontez-nous ce que vous vivez dans votre travail, dans vos relations avec votre hiérarchie et posez bien sûr vos questions en direct sur RFI au 33 7 64 45 51 41. Pour les autres, ceux qui n'ont pas le droit d'écouter la radio au travail, bon, vous baissez le son puis vous nous écouterez en podcast quand vous aurez le temps ce soir, ce week-end. Vous le savez, sur l'appli RFI Pure Radio, on aborde donc la partie solution pour tous les ambitieux. On va aussi détailler ce que doit être aujourd'hui, en 2025, un bon dirigeant ou une bonne dirigeante. Babacar nous poste ce message de Saint-Louis au Sénégal. Mon supérieur devait remplir une fiche sur un fichier Excel et comme il perdait du temps, il m'a demandé de l'aide. C'était la catastrophe. Donc le chef ne savait pas comment marchait Excel. Mais lorsque je lui ai fait des remarques, il m'a accusé de ne pas avoir livré dans les temps un travail. Je ne me suis pas laissé faire, mais depuis, eh bien, c'est une ambiance pourrie au boulot. C'est pas simple quand même hein, de démontrer son incompétence à son chef, surtout quand il vous demande de l'aide.
Mais c'est un petit peu comme dans la vie, il y a une différence par exemple entre dire « je pense qu'on pourrait faire différemment » et dire « c'est complètement nul ce que tu as fait » ou « tu es incompétent ».
Alors qu'aurait dû faire Babacar ?
Alors, j'ai pas tous les détails.
Ne pas lui montrer l'évidence de son incompétence face à un logiciel, lui dire « mais c'est normal que vous ne connaissiez pas ce logiciel ».
En l'occurrence, si j'ai bien compris, c'est son boss qui lui a demandé de l'aider sur Excel. Donc ensuite, on peut aider et dire « je suis hyper content de t'aider, je serai toujours à ta dispo » et lui dire « sérieux, t'es vraiment trop nul de pas savoir ». Encore une fois, j'ai pas tous les détails et c'est compliqué d'avoir une opinion et un avis très tranché, mais je constate dans les structures que 90%, si ce n'est 100% des conflits sont dus à des malentendus, des non-dits et à des choses où on ne s'exprime pas forcément toujours bien.
Allez, on passe au standard en direct. Outanda nous appelle de Kinshasa en RDC. Bonjour Outanda.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Soyez le bienvenu, Outanda, vous avez 23 ans. Et quelle est votre expérience et quelle est votre question? Racontez-nous, Outanda, dans quoi travaillez-vous?
Voilà, en fait j'ai 33 ans.
Ah et pardon, beaucoup plus d'expérience.
Voilà. Oui, depuis 2010, donc, je travaille dans le communautaire, dans les services communautaires. Nous nous organisons en task group. Et nous partons dans les écoles, les centres de santé, les marchés. Nous faisons aussi de l'activisme et du lobbying. Donc nos activités consistaient à venir nettoyer, venir résoudre un problème qui pourrait se poser ou venir faciliter une certaine collaboration entre les écoles, par exemple, etc. Seulement que nous avions une difficulté. La difficulté venait du management. quand il y a des associations, des institutions publiques, les écoles par exemple, elles-mêmes, qu'il faut coordonner, bah, la personne qui doit être le chef, soit il y a vraiment un sérieux problème, le commandement sert à écraser les autres. Et les gens qui sont de la communauté, qui sont proches du commandant, ils sont contents. Ça fait du communautarisme mal placé, du népotisme, et ça nous bloque beaucoup dans le travail. Rendez-vous compte que dans mon cas, en 2016, j'ai dû changer carrément de fusil d'épaule et m'engager comme ranger et rester là pendant 4 ans. J'ai été attiré par une chose, c'est que le management chez les paramilitaires, je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup mieux.
Donc vous étiez dans un parc de protection de la nature, hein, c'est bien ça, Outanda?
Oui, j'ai fait plusieurs parcs et autres aires protégées de protection de la nature. Et chez les rangers, c'est vraiment comme chez les militaires. Mmh. Vous êtes entraîné comme ça et quand il faut agir, tout le monde sait plus ou moins tenir sa place. Et quand il y a un travail à faire, il y a un briefing, il y a l'action et puis il y a le débriefing. C'est vrai qu'à la fin...
Et le débriefing, ça veut dire qu'il y a une écoute du chef dans ces cas-là quand il y a le débriefing? Tout le monde a la parole?
Justement. Déjà, quand il y a le briefing, le chef écoute tout le monde. Mmh. À la fin, quand il a décidé, vous allez passer à l'action. Mais encore après l'action, il y aura le débriefing pour faciliter le travail suivant. Mmh. Et dans tout ça, chacun sait tenir sa place. Il y a le sens de la discipline, il y a le sens de la loyauté vraiment, pas qu'à quelqu'un, mais loyauté au groupe.
Et puis bon, vous êtes dans un travail qui a du sens aussi, qui est la protection de la nature, des espèces animales.
Justement.
C'est-à-dire que cette organisation-là du travail, que vous trouvez particulièrement efficace, vous ne la retrouvez pas dans les emplois que vous avez connus, dans le développement communautaire. Et du coup, quelle est votre question alors, Outanda?
Voilà. Maintenant, moi, je suis rentré dans le développement communautaire à proprement parler depuis 2021. La question, c'est comment faire pour partager ces pratiques-là avec les autres sans que ça ne crée des problèmes.
Effectivement, c'est très intéressant, Isabelle Barthes. Quand on a connu un modèle d'organisation qui fonctionne mieux, comment le partager à son poste actuel?
Ben, il faut arriver déjà avec beaucoup de conviction et puis démontrer. Parce qu'en effet, ces questions de compétences ou d'incompétences managériales, c'est une co-construction. Et vous ne pouvez pas arriver en disant « j'ai raison parce que je suis le chef », même si vous êtes hyper compétent. Il faut que vos collaborateurs vous donnent une légitimité. Moi, ce que j'ai appris, c'est que la légitimité se construit déjà sur de la compétence technique ou métier dont on parlait, donc avoir un minimum de connaissances, des structures, de l'activité, etc. Il ne faut pas arriver en étant complètement parachuté. Ensuite, c'est ce que disait Gaëlle, il faut être dans l'écoute, beaucoup d'écoute. Hein, il ne faut pas tout de suite, il faut se donner le temps d'écouter ce que les gens ont à dire, du respect aussi. Votre travail n'est pas nul, votre travail n'est pas... Je vais vous apporter la vérité. Non, on peut faire mieux. C'est bien ce que vous faites, mais on peut faire mieux et apporter petit à petit des changements. C'est une conduite du changement dans ce cas-là et on ne fait pas reset comme dans un ordinateur. Donc après, il y a en effet les styles de management qui vont être plus ou moins différents dans le communautaire, le spectacle vivant ou l'armée, et où chacun va devoir, dans le cas qui nous est cité, s'ajuster. Mais ce qui est très intéressant dans ce témoignage, moi j'adore ça, c'est la question de la loyauté.
Gaëlle Châtelain-Berry, voilà. Encore faut-il, dans ce que nous raconte Outanda, il faut, pour pouvoir proposer des solutions, des aménagements et parler d'un autre modèle de management, il faut pouvoir avoir une forme d'oreille de son chef, l'oreille de son boss, la confiance de son boss.
Comme je le dis souvent, Emmanuel, un escalier, ça se nettoie toujours par le haut.
Donc ça, c'est une belle image, je pense que ça va bien plaire aux auditeurs. Un escalier se nettoie toujours par le haut.
Ouais.
Et oui, l'eau descend ensuite, l'eau sale.
Exactement, et la poussière et tout ça. Mais chaque manager peut agir au niveau de son équipe, même si ses N+1 ne sont pas bons. Donc je crois qu'il est fondamental, quand on veut faire évoluer une structure, et ça m'est arrivé quelques fois dans ma carrière, de ne pas aller voir son boss en disant t'es qu'un gros nul, moi je connais quelque chose de mieux. Mais justement de poser des questions, d'être dans la discussion, de savoir pourquoi est-ce qu'on a telle organisation, de questionner. Parce que peut-être quand on est nouveau dans une structure, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Donc il faut être quand même relativement humble avant de traiter quelqu'un de nul ou d'incompétent.
Outanda, est-ce que les réponses vous ont donné un début de satisfaction ?
les réponses vont donner satisfaction.
Merci à vous en tout cas de nous avoir appelés et d'avoir partagé votre expérience. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Écoutez le témoignage et la méthode de Brice qui travaille aux Émirats Arabes Unis avec un manager pas du tout parfait.
Bonjour les voisins. Je reste professionnel face à mon manager incompétent. Lorsque je suis confronté à des décisions que je ne comprends pas, je communique clairement mes préoccupations et mes questions. Par exemple, je lui ai dit un jour, « Je ne comprends pas, monsieur, pourquoi nous devons suivre cette approche. Pouvez-vous m'expliquer les raisons derrière cette décision ?» Cela m'a permis de mieux comprendre les choses et de trouver des solutions ensemble. En restant professionnel et en communiquant clairement, je peux minimiser les conflits et trouver des solutions efficaces, même si mon manager n'est pas parfait.
Alors, mon boss est nul, mais je le soigne. Hein. C'est un peu ça que nous disait finalement cet auditeur. Merci Brice hein, pour le message. Je lui demande des explications. Est-ce que ça peut vraiment faire changer son boss ?
Complètement. Parce qu'en fait, si jamais vous avez un boss qui, par exemple, ne vous dit pas « bonjour le matin », j'ai l'exemple, je reçois des messages sur mon blog à ce propos, et une femme m'avait envoyé ça, mon boss ne me dit pas « bonjour le matin », je ne comprends pas pourquoi, je lui réponds « mais lui avez-vous demandé pourquoi ?» Elle me dit « non, faites-le ». Elle m'a réécrit le lendemain, elle me dit « il m'a expliqué, en fait, il dit bonjour à l'équipe d'à côté parce qu'ils sont sympas, et nous, il ne nous dit pas bonjour parce qu'il a l'impression que ça fait trop copain-copain ». Et en fait, pour lui, ne pas dire bonjour à son équipe, c'était quelque chose d'important. Et juste en parlant, bien évidemment que le manager a changé de comportement. Ce qu'a fait Brice, moi, je trouve ça absolument formidable, parce que c'est un peu courageux d'aller voir son boss pour dire « je ne comprends pas ». Parce qu'on est évalué pour nos compétences, pour notre savoir-faire, etc. Donc c'est courageux, mais derrière, ça fonctionne, allez, 99%.
Ouais, « je ne comprends pas », c'est aussi une ouverture pour la discussion. « Et si on faisait autrement ?»« Je comprends bien votre choix », etc., etc. Vous nous appelez, hein, « mon boss est nul, mais je me soigne », 33 7 64 45 51 41. Mais je le soigne, hein, bien sûr. Enfin, on peut aussi se soigner soi-même hein, pour supporter la nullité de son boss. Mamadi nous appelle de Conakry, en Guinée. Bonjour Mamadi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors, vous êtes un ancien chef d'équipe, vous avez eu 10 personnes sous vos ordres dans une compagnie minière. Donc, vous êtes un ancien chef, un ancien boss, et ça a été difficile pour vous, Mamadi ?
Oui, évidemment, en termes de management, c'était difficile pour moi, car au cours des 5 dernières années où j'ai dirigé cette équipe, dans l'exploitation minière, souvent.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui ne se passait pas bien ? Il y avait des difficultés, notamment dans la gestion de conflits ?
Effectivement, il y avait la difficulté dans la gestion des conflits entre les ouvriers et entre eux et moi également. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois, mais le cas dernier m'a pas été facile parce que, comme vous le savez, le chef d'équipe est responsable du partage de chaque tâche à ses ouvriers.
Et alors, donnez-nous un exemple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une dispute ?
Et donc, effectivement. Donc, ce qui s'est passé, un jour, j'ai eu à commissionner un de mes chauffeurs d'aller chercher de l'eau. Et du coup,
il a refusé. Il a dit non, c'est
oui.
ça
Oui, effectivement, il a dit non, qu'il ne va pas. Et puis, avec une réponse vraiment alarmante, en criant dessus.
Ah.
Et donc, j'étais fâché, très énervé.
Ah oui, donc du coup, le ton est monté entre vous. En gros, lui, il n'a pas voulu aller chercher de l'eau. Peut-être qu'il trouvait aussi que cette tâche que vous lui donniez était injuste, ou je ne sais pas, il avait peut-être des raisons. Il s'est énervé, et vous aussi. Et qu'est-ce que vous en avez déduit, Mamadi ?
Du coup, lui, non seulement il a crié, et puis il était fâché. Et moi aussi, dans l'immédiat, j'étais très, très, très remonté contre lui. Voilà, on a chaudement discuté et puis finalement on ne s'est pas compris. Et par ricochet, j'ai remonté l'information auprès de mon hiérarchie supérieure. C'est là où le problème a été résolu.
Ah, c'est-à-dire, comment il a été résolu du coup ? Par votre supérieur ?
Oui, par mon supérieur, effectivement.
Et ça vous a fait mal que votre supérieur sache résoudre ce conflit à votre place ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait très mal parce que lorsque les conflits de ce genre arrivent jusqu'à l'hiérarchie supérieure, on trouve du coup que le responsable qui est sur le terrain n'a pas de bon management envers ses travailleurs, envers ses éléments.
Donc vous aimeriez savoir comment vous auriez pu gérer cette situation. Alors évidemment, a posteriori, nos invités ils vont vous donner des solutions, hein, mais c'est toujours facile de réécrire l'histoire. Vous avez fait comme vous avez pu. Quelques mots, Isabelle Barthes. On a pas mal d'appels hein, au standard. Allez-y, Isabelle Barthes.
Alors, la gestion des conflits, ça fait partie du bagage hein, du manager, parce qu'il le vit tous les jours. Alors, comme on nous l'a montré, entre lui et ses équipes, ou entre ses collaborateurs. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à être ce qu'on appelle assertif, c'est-à-dire asseoir sa légitimité, dire les choses tranquillement et aller vers une solution gagnant-gagnant, mais on rentre dans les émotions. Et les émotions, elles sont négatives et en général, ça peut être la colère. Et on se met à se crier dessus et rien n'est résolu. Donc là aussi, le manager, on doit l'aider à faire ce qu'on appelle la négociation assertive, non-violente. Par exemple, en utilisant le « je » et pas le « tu ». Je ne suis pas à l'aise avec, je ne comprends pas pourquoi, est-ce que tu peux m'expliquer ? Et non pas, tu es mauvais, tu es agressif, tu n'as pas… Voilà. Alors ça, c'est une marche très importante qui n'est pas simple, hein, mais qui aide justement à rentrer dans un dialogue. Et la deuxième chose, ça renvoie un peu au témoignage précédent, ce n'est pas parce qu'on est incompétent sur une tâche, Excel par exemple, comme tout à l'heure, qu'on est un incompétent. Et souvent, on s'enferme dans des idées automatiques. Vous voyez, la personne, on l'envoie chercher de l'eau, là, dans cet exemple. Mais peut-être que déjà, dans sa tête, on se dit, ah, il ne va pas être d'accord parce qu'il n'est jamais d'accord avec rien. Et en fait, on va préjuger du comportement des personnes. Et si elles font le moindre signal qui correspond à ce qu'on attendait, hein, c'est le biais de confirmation, eh bien, on s'enferme tous les deux, dans un conflit interpersonnel, dans quelque chose qui aboutit sur du négatif.
Dans la réalité, réalité du dialogue de tous les jours en entreprise, hein, une entreprise minière, il y a de la pression, il faut que ça aille vite, etc. Gaëlle Châtelain-Berry, il y a une perte de contrôle de soi-même à un moment donné, et ça, tout le monde est concerné. Est-ce qu'on peut s'entraîner pour garder son self-control, et surtout pour ne pas être démuni, en fait, hein, avec quelqu'un qui vous dit « non, j'irai pas chercher de l'eau ».
Mais en fait, ce que raconte Mamadi, c'est un grand classique du management. Parfois, quand on est manager, il faut aller chercher de l'eau. Je vais voir un collaborateur, une collaboratrice, il faut que tu ailles chercher de l'eau. La personne a le droit de dire « non ». Si on ne dit pas pourquoi il faut aller chercher.
C'est pas à moi de le faire, c'est ça la réponse en général. Hein.
Mais il faut toujours expliquer pourquoi est-ce qu'on fait une tâche, donner du sens à une tâche. Et si la personne dit non, pourquoi est-ce qu'elle dit non ? Peut-être qu'elle a quelque chose de plus important à faire, de plus urgent. Mais comme c'est le manager qui dit « ah oui, tu me dis que c'est urgent, t'inquiète pas, nous on a vraiment besoin d'eau, il faut que tu fasses comme ça ». Donc il faut prendre le temps, et surtout, bien évidemment, c'est ce que j'appelle le syndrome du chihuahua. Mettez deux chihuahuas l'un face de l'autre.
Tout petit chien.
Qui font qu'aboyer. Généralement, deux chihuahuas l'un en face de l'autre, ils s'aboient dessus et rien n'est construit. Il faut savoir garder le calme. Faites cet exercice, Emmanuel, je vous assure. Dans le quartier, il y a deux, trois chihuahuas. Vous mettez devant, ils vous gueulent dessus. Vous ne faites rien, la personne va s'arrêter. Le rôle d'un manager, c'est aussi d'être apaisant et de certainement pas devenir un chihuahua.
Et donc
à son
de
tour.
Baisser la voix, ça peut être assez
c'est fondamental.
Efficace. Mamadi, merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous continuez de nous téléphoner sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Alors, comment travailler avec un chef incompétent ? Amadou nous appelle, de Conakry également. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes enseignant-chercheur en anglais et vous faites face à des évolutions dans l'organisation du travail dans votre institut supérieur des sciences de l'éducation, qui est un institut public, et ça vous pose des difficultés. Expliquez-nous en quelques mots, Amadou.
Ah oui, ça me pose des difficultés, surtout... Je vais vous mentionner deux cas, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais mentionner deux cas seulement. Il y a deux responsables de mes chefs hiérarchiques. L'un m'a programmé, ça m'a informé, m'a programmé pour un cours pour lequel il ne m'a pas informé au préalable. Et lorsque le chef de la classe m'a appelé, monsieur, il s'est présenté, monsieur, vous êtes en classe, je dis, ah mais j'ai parcours ce semestre. Il m'a dit, non, pourtant c'est votre nom et votre numéro qui figure sur l'emploi de temps. Je dis, alors vous êtes le premier de me donner l'information, le chef ne m'en a pas donné cette information que j'avais cours. Cela m'a vraiment frustré parce que pour quelqu'un, pour les élèves, les étudiants, peut-être ils vont penser que j'ai pas voulu travailler avec eux, c'était une classe de licence.
Ouais. Il y a une mauvaise organisation. Visiblement, il y a une mauvaise organisation des emplois du temps, notamment. Mais vous imputez ça, Madou, à une mise en place de politique nationale de discrimination positive, d'inclusion des ethnies minoritaires, des femmes, des jeunes. Et vous dites ça a favorisé, en fait, des nominations de personnes incompétentes qui créent cette désorganisation, notamment des emplois du temps, qui retombe sur vous en tant qu'enseignant. C'est ça, hein, à vos yeux, le problème, Amadou ?
Oui, certainement. Et ces cas sont nombreux, pas seulement dans le monde académique, mais commercial et l'administration publique elle-même. Et ces leaders, ces managers sont les produits d'un projet gouvernemental, du gouvernement précédent, je veux dire. Le projet s'appelait rajeunissement et féminisation de la fonction publique, qui se voulait inclusif des jeunes et des femmes. Et voilà, c'est une très bonne chose de recruter ces catégories de minorités, bien sûr. Mais il fallait passer par...
Alors, c'est intéressant parce que la question que vous posez, effectivement, c'est quand même une question qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises, dans pas mal de projets de société. Hein. C'est plutôt une bonne chose, hein, je pense, Gaëlle Châtelain-Berry, de rééquilibrer davantage le management. Parce que d'ailleurs, depuis le début, on dit mon boss, mon patron, mon chef, alors que, bon, heureusement qu'il y a aussi des femmes dirigeantes, mais ça peut être mal compris et c'est question de... D'ailleurs, est-ce qu'il faut parler de discrimination positive ? C'est pas sûr. Mais comment faire pour que ces décisions soient mieux intégrées et ne soient pas comprises comme ou interprétées comme une baisse de qualité managériale ?
En fait, je crois qu'il faut partager les décisions. J'ai encore malheureusement entendu dans une grande entreprise du CAC 40 un directeur oser dire « Mais la nomination... » Et je cite « La nomination de cette bonne femme, elle l'aurait jamais eue si ça n'avait pas été une femme. » Et donc les changements, s'ils sont pas accompagnés, si effectivement la mixité, l'intégration de minorités, etc., n'est pas partagée avec les salariés, c'est très compliqué de faire évoluer les choses. Cela étant dit, quand on est dans une situation où on comprend pas un changement, encore une fois, la seule manière, c'est d'aller demander des explications. Et dans le cadre de structures qui sont pas extrêmement forcément carrées, ne pas hésiter à faire des petits mails pour récapituler ce qui s'est dit autour de la machine à café. J'ai bien noté que tu m'as dit que cette décision ou cette nomination venait de telles règles, j'en prends bonne note. Il faut savoir parfois être formel, je crois.
Alors, pas mal de messages aussi qui s'affichent sur mon écran. Isabelle Barthes, un message d'un auditeur qui travaille dans une cimenterie en Mauritanie. « Je travaille avec un directeur industriel qui pense tout connaître. Il perturbe tout le monde. C'est un expatrié qui ne cherche pas à comprendre notre façon de penser. Comment l'amener à écouter ?» Là, il y a une vraie question sur l'interculturel aussi qui se pose, Isabelle Barthes.
Très clairement, l'interculturel est une raison du sentiment d'incompétence, parce que cette personne a certainement des zones de compétence très fortes. Mais en effet, le rapport au temps, le rapport à la hiérarchie, enfin, tout ça a été extrêmement documenté, doivent rentrer dans des zones de dialogue. Alors j'ai envie de dire, là, il y a quand même une question de proportionnalité. Quand vous arrivez tout seul dans un environnement, même si vous êtes le patron, comme dans ce cas-là, c'est quand même à vous de vous adapter à l'environnement, à la culture du pays. Et en général, les bonnes entreprises font des formations à l'expatriation pour comprendre que quand on part en Chine, en Afrique, les grandes valeurs, la grande façon de travailler ne sera pas tout à fait la même. C'est valable aussi avec des pays beaucoup plus proches. Donc là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, alors, ou un tiers, parce que là, on a beaucoup parlé du face-face. Moi, il y a deux choses dont il faut savoir sortir. Justement, c'est du face-face. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément toujours voir mon patron ou mon manager. C'est travailler le tiers, c'est-à-dire un consultant, un coach, un DRH, pour ramener quelqu'un qui va aller voir ce fameux manager et lui dire « tu n'as peut-être pas tout compris, il faudrait peut-être travailler différemment, etc. » Et puis, la deuxième chose qui est très importante, là, pour les questions de l'eau, par exemple, c'est la règle. La règle repose. Par exemple, aller chercher de l'eau, eh bien, il y a une règle, c'est tout, deux fois par jour, et on donne un équilibre et on lutte contre le sentiment d'injustice. Parce qu'on peut avoir autrement le sentiment que le patron décide de tout. Et alors là, il ne peut pas être... C'est ouais, pas un
encore,
être exceptionnel.
Encore faut-il que le patron lui-même respecte les règles. Dans votre livre, « Mon boss est nul
»,
Gaël Châtelain-Berry, il ne respecte pas les règles lui-même. Donc du coup, les règles sont encore moins bien comprises. Un message d'Aliou à Cotonou, au Bénin. On arrive bientôt au terme de cette discussion. Moi, j'ai aidé mon chef dans son travail en lui montrant avec malice son incapacité tout en lui présentant mes respects. Et finalement, maintenant, eh bien, on se respecte mutuellement.
J'adore. Mais vous savez, il y a un truc qu'on oublie, et quand on parle de manager son manager, c'est une forme de manipulation. Et quand on est francophone, on dit « Oh là là, manipuler, c'est mal ». Mais si ça vous est arrivé d'avoir mal au dos déjà, Emmanuel, on se fait manipuler par notre kiné. Là, ce que nous raconte votre auditeur, je trouve ça extraordinaire. Il a amené, en n'étant ni agressif ni quoi que ce soit, son boss à prendre conscience... pas de façon agressive, bah, qu'il avait des zones d'incompétence et l'a amené à développer de nouvelles compétences sans pour autant l'humilier. Donc je trouve que c'est la manipulation au sens positif du terme, c'est quelque chose qui est très très utile pour survivre en entreprise.
C'est ça, quand vous dites « mon boss est nul mais je le soigne hein, », vraiment votre credo Gaël Châtelain-Berry, c'est vraiment d'être actif dans cette relation et de ne pas devenir victime de sa hiérarchie d'une certaine manière et de l'amener à se transformer sans qu'il s'en rende compte. Bon, quels sont quand même, pour ceux qui nous écoutent, qui sont managers, quelles sont les caractéristiques du manager bienveillant aujourd'hui en 2025
Il est humble.
Il manage souvent à distance en plus.
Bien sûr, il est humble, il est à l'écoute, il est capable de se remettre en question et il ne pense pas tout savoir. Enfin, le modèle du manager du siècle dernier, qui est Superman ou Wonder Woman, il est dépassé. Maintenant, je crois que c'est dans la co-construction qu'on arrive à faire des choses vraiment intéressantes. Donc être humble et à l'écoute, je pense que c'est déjà un bon début. Revenons aux fondamentaux et je m'inscris en faux par rapport à toutes les grandes théories. Le management, il a commencé à être expliqué par Adam Smith au XVIIIe siècle, le premier théoricien du capitalisme. Prends soin de tes ouvriers, soigne-les gratuitement et éduque les enfants de tes ouvriers pour que ça devienne de bons ouvriers après. Au XVIIIe siècle, on n'invente pas l'eau chaude, soyons basique.
Isabelle Barthes, ceci dit, aujourd'hui, on l'a dit au début de l'émission, les nouvelles générations ont de moins en moins envie de pouvoir, de moins en moins envie de responsabilité. Qui veut devenir encore manager? Est-ce qu'il y a une crise des vocations des dirigeants dans la nouvelle génération, en dehors de l'appât du gain, évidemment?
Non, alors moi, je suis au contact d'énormément d'étudiants, bac plus 5, ingénieurs, etc. Alors d'abord, ça a toujours existé. Hein, vous remontez à 50 ans, cette envie de management, elle n'est pas toujours présente chez tout le monde. Ce qu'il faudrait, c'est beaucoup mieux se connaître et comprendre qu'en effet, être manager, c'est être au service du bien commun, au service des autres. Et c'est ne pas être le meilleur vendeur, le meilleur chef, le meilleur ouvrier, et d'être quelqu'un d'invulnérable. Et ça, les entreprises, elles continuent à le faire, c'est ça le problème. Et en fait, si on n'a pas compris qu'il fallait avoir le goût des autres, les faire grandir, ben on va être déçu, et puis on va décevoir tout le monde. Donc ce que Shine, un sociologue, appelait l'encre de carrière, voilà, pourquoi, comment j'ai envie de me développer, moi, pour être bah justement sur ce vrai métier. C'est un vrai métier, le management.
Et quand on a un chef qui n'est pas incompétent, mais qui est très perfectionniste, hein, ça aussi, ça peut être un défaut. Il faut accepter l'imperfection, ce qui ne veut pas dire faire le deuil de l'excellence. Hein. C'est pas forcément simple non plus. Hein. Quand on est le contraire de l'incompétent, mais ça peut aussi poser... ça peut peser sur ses équipes.
Puis il faut avoir conscience qu'on ne sauve pas de vie. Il y a quand même très très peu de métiers où on sauve des vies, et savoir prendre cette petite distance, c'est agréable de temps en temps.
Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Gaël Châtelain-Berry, vous avez publié « Mon boss est nul, mais je le soigne. Comment transformer le pire patron en manager bienveillant ?» aux éditions First. Et vous avez notamment, vous êtes l'animateur d'un podcast aussi sur le bien-être au travail qui s'appelle
« Happy Work ».
Voilà, donc rendez-vous sur le podcast « Happy Work ». Et merci à vous Isabelle Barthes, professeure à l'Université de Strasbourg en sciences de gestion. Vous avez publié « La caquistocratie ou le pouvoir des pires » aux éditions EMS. Merci infiniment tous les deux. Et tout de suite, une sélection maintenant de la playlist RFI. Kasi Lambiste, Loulou Gainsbourg. L'intranquillité, c'est d'actualité pour le sujet de notre émission. Thank you.
de cette colline, abrité dans l'exil, mais derrière les façades, j'entends vibrer comme le son d'un orchestre caché l'intranquillité. When I'm in your dreamscape, I'm alive. Every time I leave you, I turn back to this disquiet. One more time, one more time. Mais que sais-tu de l'empreinte que tu as laissée? Me perds dans ton labyrinthe, dans les rues de l'Alfama, et dans le bruit du tram, une bête terrée. Je sens sous mes pieds le drame, l'intranquillité.
De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine Cachin, David Brockway, Steven Elsley, Thibaut Matta. Vous nous retrouvez bien sûr sur nos réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp channel, avec nos vidéos notamment. Et vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio ou en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Demain, 8 milliards de voisins, nous parlerons des bains publics, les bains douches, les hammams ou l'accès à la propreté en ville, avec notamment un reportage très intéressant en Corée du Sud, où il est encore possible de frotter le dos de son voisin, qui est un parfait inconnu. À l'heure de l'urbanisation mondiale, de l'eau courante dans les logements, que deviennent finalement ces moments partagés d'hygiène corporelle? Quelles inégalités aussi d'accès à l'eau, d'accès à la propreté? Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous, où vous lavez-vous, seul, à plusieurs? Bien sûr, vous aurez la parole en direct dans l'émission. C'est vous qui faites le sel de cette émission. 33-7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI avec RFI Midi.